Radio Kapi, Grand Témoin.
Bonjour et heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Lui, c'est Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il est fin mandat après 3 ans passés à la tête de la MONUSCO. Monsieur Miss, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Alors avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre long parcours de diplomate, mais aussi de votre mandat à la tête de la MONUSCO. Avant cela, on va commencer par une brève biographie de votre personne. Vous êtes né en 1949 à Indianapolis. Quel jour et quel mois de l'année?
Octobre.
Octobre 49 à Indianapolis.
Oui, effectivement.
Et c'est là où vous avez grandi?
Non, alors ma famille, ils sont partis d'Indianapolis, la ville, quand j'ai eu l'âge de 2. Donc même je n'ai pas de souvenirs là.
À l'âge de 2 ans, vous avez quitté Indianapolis?
Oui.
Pour vous installer où?
Oh, on se déplaçait ici et là, mais je considère la ville de Seattle, Washington, au nord-ouest des États-Unis, ma ville. Donc c'est d'où je viens.
Vous êtes combien dans votre famille? Vous êtes fils aîné? Vous avez des frères et sœurs?
Oui, effectivement, j'ai 2 frères et autres membres de la famille qui sont toujours là à Seattle.
Parlez-nous de votre enfance. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Oh, c'est une bonne condition. Alors, c'est-à-dire que je me grandis comme beaucoup d'autres Américains et en attendant pour assister aux écoles publiques. Et donc, je crois une enfance plus ou moins normale pour un Américain, pour un Américain.
Et les parents, ils faisaient quoi, vos parents?
Mon père a travaillé comme un génie de l'aviation avec les avions et même le programme de l'espace. Ma mère travaillait toujours à la maison.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre enfance, pendant que vous grandissiez?
Oh bon, j'ai beaucoup de mémoire.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de souvenirs que vous avez en tête, mais il y a certainement un souvenir que vous allez plus marquer.
Non, je peux dire que j'avais toujours un intérêt pour les choses hors de ma cercle immédiat, ça veut dire non seulement au pays, mais même les affaires internationales, qui m'a guidé finalement. Quand j'ai obtenu ma diplôme à l'université, j'ai décidé de rentrer en service avec le corps de la paix. Et c'est effectivement ce service du corps de la paix en Sierra Leone qui m'a donné aussi ma introduction, ma présentation à la vie et l'expérience africaine.
Alors, vous avez un diplôme, vous êtes titulaire d'un diplôme en mathématiques.
Effectivement.
Oui, obtenu à l'université de Michigan. Toujours aux États-Unis.
C'est Michigan State University.
Voilà, c'est la prononciation anglaise.
C'est une autre université différente.
C'est pas aux États-Unis?
Si, aux États-Unis, mais il y a une université de Michigan, il y a une autre Michigan State University.
Ah, voilà. D'accord. Ok, merci pour la précision. Et ensuite, vous avez suivi une formation du Collège national des défenses du Canada.
Oui, effectivement, pendant mon service diplomatique.
Et à l'Institut des services diplomatiques des États-Unis.
Effectivement.
Là, c'était pour vous préparer dans la diplomatie?
Effectivement, il y a une école, si vous voulez, une aile académique du département d'État, c'est ça. Et donc, on continue pour les diplomates américains de faire des études là, de temps en temps, pendant les services diplomatiques, pendant la carrière.
Vous rêviez de devenir diplomate?
Non, alors effectivement, comme vous venez de noter, j'ai pris un diplôme en mathématiques, donc je pensais à ce point de continuer à poursuivre dans cette voie. Et c'est, je crois, le service encore comme volontaire de corps de la paix qui a commencé à changer la direction de ma vie.
Et comment vous vous êtes retrouvé dans ce service?
Bon, j'ai demandé, comme je viens de dire, j'avais toujours un intérêt pour les choses hors de la cercle immédiate aux États-Unis. Donc, il me semble une bonne opportunité d'être capable de faire quelque chose pour autres, ainsi que approfondir ma connaissance des choses hors des États-Unis. Et donc, quand le corps de la paix a accepté ma demande, c'est avec beaucoup de plaisir pour moi que je me trouvais avec cette opportunité d'aller en Afrique, en Sierra Leone précisément, et de commencer une expérience africaine là.
L'Afrique, c'était votre choix personnel ou bien vous avez imposé de venir en Afrique?
Non, j'ai exprimé même une préférence pour l'Afrique.
Et pourquoi?
Heureusement, bon, c'est avec un intérêt que j'ai commencé à développer en Afrique et je voudrais dire franchement à ce point, je n'ai pas eu une très bonne connaissance profonde. Mais j'étais très content d'avoir pris cette décision et d'avoir cette occasion. Et effectivement, depuis cela, la plupart de mon carrière a été passée en Afrique.
Alors, vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Non, pas marié.
Ah, vous n'êtes pas marié?
Non.
Vous êtes célibataire?
Ouais.
Pourquoi, si ce n'est pas un secret?
Bon, je ne sais pas, mais peut-être la vie diplomatique, ce n'est pas le plus convenable aussi pour...
C'est une vie compliquée, parce qu'on est tout le temps en déplacement.
Effectivement, oui. Il y a un diplomate égyptien qui m'a remarqué il y a quelques années que les dernières vraies tribus des nomades sont des diplomates.
Et ça ne vous dérange pas de ne pas être marié?
Bon, non, alors, c'est-à-dire qu'on peut continuer avec une vie...
Voilà, on va parler de votre parcours professionnel, je veux dire. Vous avez commencé dans le corps de la paix, comme vous nous avez dit.
Oui.
Et votre première mission a été où? En Afrique, où précisément?
Afrique occidentale, Sierra Leone, comme j'ai remarqué. Et j'ai continué là comme volontaire pendant 3 ans. Et j'ai aussi travaillé là comme un administrateur de corps de la paix pour 1 an en plus, donc 4 ans en total en Sierra Leone. Et après, un peu plus tard...
C'était votre première fois d'arriver en Afrique.
Effectivement, voilà.
C'était quoi votre impression lorsque vous avez mis les pieds en Afrique pour la première fois?
Oh, bon, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et comme j'ai déjà dit, ça a changé la direction de ma vie. J'étais envoyé à un petit village à l'intérieur du pays, à la fin de la route. Donc, ça commence à me donner une connaissance d'une vie africaine, en ce cas en Sierra Leone, en Afrique occidentale, mais la caractère de ces Africains, des Sierra Leonais, et donc c'est ça qui a provoqué un intérêt profond des affaires de l'Afrique, des Africains, jusqu'au présent.
Et comment vous avez trouvé cette vie en Sierra Leone, ou cette vie des Africains, leur façon de vivre?
Bon, c'est évidemment tout à fait différent de la vie que j'ai connue comme Américain aux États-Unis, parce que c'est un petit village sans électricité, sans l'eau courante, donc c'est quelque chose de plus typique d'un village assez isolé, et donc ça commence à changer ma perspective et la connaissance des choses que je ne connaissais pas avant.
Comme quoi, par exemple?
Bon, simplement un autre style de vie, les problèmes... présenter quotidiennement à ces personnes pour leur vie, pour continuer à développer, pour améliorer les conditions pour leurs enfants et autres. Et donc, ça commence à approfondir ma compréhension aussi des problèmes, des défis que les Africains, et en ce cas, les personnes de ces villages, de la région, se trouvent comme problème. Et ça commence aussi à changer ma perspective de quoi on peut faire pour essayer à aider les pays africains, le gouvernement africain et surtout le peuple africain en face de ces défis.
Après la Sierra Leone, vous êtes allé où?
Bon, je suis rentré pour travailler quelque temps à Washington. Et éventuellement, j'ai pris une autre position, comme on dit staff, directeur adjoint de corps de la paix à Niamey, au Niger. Et j'ai continué dans ces postes comme fonctionnaire de corps de la paix en plusieurs pays africains.
Africains, oui.
Oui, oui. Éventuellement, comme directeur de corps de la paix, le programme au Gabon.
Vous êtes arrivé en RDC en 2004, si je ne me trompe pas, comme ambassadeur.
Je suis arrivé en 2004 comme ambassadeur, mais j'ai commencé mon expérience à Kinshasa comme ministre conseiller de l'ambassade américaine en arrivant ici en 98. En 95.
En 95, vous avez travaillé de 95 à 98.
Effectivement, comme ministre conseiller. Donc, c'est une période assez pleine, des événements aussi. Ça veut dire la fin du
régime
de Mobutu, la guerre qui a été lancée, la prise du pouvoir par la FDL, etc., pendant cette période.
En quoi consistait votre travail à l'ambassade?
À ce point, j'étais le numéro 2 de l'ambassadeur, donc j'étais l'adjoint de l'ambassadeur en travaillant avec tous les différents services de l'ambassade. Et bien sûr, pendant cette période, j'ai commencé à visiter l'intérieur du pays assez souvent. Surtout pendant cette période, l'est du pays, c'est quand on a trouvé les camps gigantiques des Rwandais qui sont fuis du Rwanda suite à la génocide de 94 au Rwanda. Donc, c'est aussi une opportunité de commencer à comprendre et voir, connaître la situation du Congo et surtout pendant cette période assez difficile.
Comment vous avez vécu la fin du régime Mobutu, vous qui étiez numéro 2 de l'ambassade des États-Unis en RDC? On sait que les États-Unis, c'était quand même les alliés du feu maréchal Mobutu.
Bon, c'était une période très difficile parce que c'était une période de changement profond avec l'invasion, la guerre, donc une période très difficile pour beaucoup de Congolais et pour le pays en général. Donc c'est une période pleine de tensions, pleine de problèmes, et c'est parmi nos efforts à l'ambassade américaine, c'est pour tout faire possible pour aider cette transition et surtout vers la fin avec l'approche de la FDL à Kinshasa pour minimiser la violence, pour assurer quelque chose de mieux pour les Congolais. Donc c'est une période assez intense, tendue, difficile, mais effectivement une bonne opportunité aussi pour moi de mieux connaître les problèmes quotidiens, les problèmes même en face du pays, et un pays à ce point-là qui a été vidé en plusieurs sens du point de vue de fonctionnement de l'État, donc qui pose aussi autre défi pour la reconstruction après la prise de pouvoir par la FDL.
Alors vous, personnellement, vous avez soutenu le régime de la FDL. Vous avez, est-ce que vous pensez qu'il fallait vraiment que les choses changent en RDC?
Bon, c'est pas une question de soutenir ou pas. C'est finalement le pouvoir qui se trouvait en place comme diplomate américain. C'est important d'essayer de travailler avec le gouvernement pour aider le gouvernement, surtout en vue de toutes les difficultés desquelles je viens de parler, des problèmes énormes pour le pays, pour les Congolais, les conditions de vie, des problèmes sérieux économiques, sociaux et autres. Donc, c'est une question d'essayer de faire des contacts, d'approfondir la connaissance avec les nouvelles autorités, et donc de commencer de faire le possible de notre part à soutenir la reconstruction et l'établissement et l'amélioration des conditions de vie pour le peuple congolais.
En 97, le régime de Kabila Laurent prend le pouvoir. 98, c'est une nouvelle rébellion qui commence dans l'Est avec le RCD. C'est en ce moment-là que vous quittez?
Oui, effectivement. J'étais toujours ici, même en août 98, c'est-à-dire pour le début de la guerre.
De la rébellion du RCD.
Et c'était aussi une période très, très difficile, ici à Kinshasa, qu'ailleurs, à l'Est, et partout où le conflit commence à se passer. Donc, c'est une période dangereuse, tendue, difficile, et effectivement, c'est aussi la fin de mon mandat comme ministre conseiller à l'époque. Donc, je suis parti pendant cette période et j'ai pris des nouvelles fonctions à Washington.
Ça coïncidait avec la fin de votre mandat ou bien c'est à cause de toutes ces tensions qu'il y avait dans le pays qu'on a mis fin à votre mandat ou qu'on vous a rappelé dans votre pays?
Non, je suis arrivé à la fin de mon mandat, c'est après 3 ans, parce que je suis arrivé 3 ans précédents, en 95. Donc, c'est la fin de mon mandat.
C'était une coïncidence, c'est juste le début de la rébellion et la fin de votre mandat.
Et effectivement, j'étais en fonction de chargé d'affaires et j'ai assuré la transition pour Abil Swing, qui à ce moment est arrivé comme ambassadeur.
Et en 2004, vous revenez comme ambassadeur?
2004, oui. J'ai été, juste après le service ici en 98, j'étais directeur pour l'Afrique centrale au département d'État à Washington jusqu'en 2000. Et en 2004, je suis revenu ici comme ambassadeur.
Ambassadeur, vous avez passé 4 ans.
3 ans comme ambassadeur.
De 2004 à 2007, vous avez raison, 3 ans comme ambassadeur. Vous trouvez un autre régime?
Effectivement, c'était la présidence de Joseph Kabila, mais bien sûr aussi une période très difficile, c'est la transition.
La transition.
Suite aux accords de Sun City et le Sakhar. Oui, oui. Mm-hmm. Donc j'étais membre de SIAT à l'époque et aussi une période très difficile à plusieurs points. Et l'objectif principal, c'est de tout faire pour arriver à la fin réussite de cette transition, avec la tenue des élections démocratiques, et de tout faire encore pour appuyer les institutions pour arriver à cet aboutissement de la transition réussie, ainsi que continuer les efforts par rapport à l'insécurité qui persiste à plusieurs régions du pays aussi, et qui menace profondément le bien-être de la population congolaise.
3 ans comme ambassadeur des États-Unis en RDC, quel est le bilan que vous avez dressé de votre mandat comme ambassadeur?
Je voudrais dire, c'est beaucoup plus le bilan pour le pays que pour moi-même. Et effectivement, comme tout le monde sait, on est arrivé finalement avec les élections de 2006, largement aperçu, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi par la communauté internationale, comme des élections démocratiques et libres, donc avec l'élection du président Joseph Kabila comme chef d'État, mais aussi l'installation d'un gouvernement basé sur ces élections, y compris les institutions qu'on connaît jusqu'au présent, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, effectivement l'établissement aussi de ces gouvernements provinciaux, basé encore sur les élections libres et démocratiques. Donc, en ce sens...
Des élections en 2006 qui étaient quand même contestées.
Contestées, mais comme je dis, largement appréciées, et même par l'appréciation qui a été faite, par exemple, par le Carter Center, la mission d'observateur européen, SADC et autres. Mais bien sûr, avec des problèmes profonds qui continuent, surtout... l'insécurité des activités des groupes armés et autres, surtout à l'est du pays. Donc, en ce sens, une réussite pour arriver à la fin de la transition, l'installation d'un gouvernement élu par les élections, mais en même temps avec des problèmes graves et profonds qui continuent, surtout dans le domaine de sécurité et les activités des groupes armés.
Vous revenez une fois de plus en 2010, c'est la troisième fois, vous revenez en RDC, et cette fois-ci comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU.
Effectivement, quand je suis parti comme ambassadeur en 2007, j'ai pris ma retraite, ou bien il semble plus précisément, j'ai essayé à prendre ma retraite, mais effectivement, j'étais contacté par les Nations Unies et j'ai accepté de revenir comme représentant spécial.
Parce que vous connaissiez déjà le pays?
Peut-être c'est une question mieux adressée aux autorités des Nations Unies. Mais effectivement, c'est déjà une connaissance du pays avec beaucoup de contacts, avec une connaissance de la région aussi. Et donc, je suis revenu pour prendre ces fonctions de représentant spécial.
Alors, vous dites que vous vouliez prendre déjà votre retraite. Vous avez été contacté par les autorités des Nations Unies. Et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce poste?
J'étais contacté par les hautes autorités des Nations Unies et j'ai pensé que, en parlant avec eux, que je peux faire quelque chose à contribuer pour faire avancer l'effort pour arriver à la paix, à la sécurité, donc une amélioration des conditions pour les Congolais. C'est pourquoi j'ai accepté à revenir. J'ai dit clairement que je ne cherche pas une deuxième carrière. Et effectivement, quand je pars ici, je compte reprendre ma retraite, mais je pensais en même temps que je peux faire quelque chose à contribuer et soutenir les efforts des Congolais, établir la paix, la sécurité et de continuer à construire le pays, effectivement.
Radio Capi, grand témoin.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il est fin mandat après 3 ans passés à la tête de la MONUSCO. Alors 3 ans, 2010, 2013, vous quittez la mission. Est-ce que vous pensez que vous avez apporté quelque chose à la mission des Nations Unies en RDC? Est-ce que vous avez aidé à contribuer au retour de la paix?
Je crois et j'espère bien. Bien entendu, je suis déçu, j'ai déjà dit que je pars, j'arrive à la fin de mon mandat sans avoir la paix, la sécurité durable déjà établie à l'est du pays. Mais aussi, je suis sensible qu'on a beaucoup fait. Donc, par exemple, le Kinshasa d'aujourd'hui, du point de vue de sécurité et autres, n'est pas du tout la même ville que j'ai connue en 2006 et 2007, quand j'étais ici comme ambassadeur. Même la plupart de la région du pays, surtout la partie de l'ouest, ne connaissent plus l'insécurité des activités qu'on a connu dans le passé avec des activités des groupes armés, des conflits. Mais, et même, je peux ajouter que la FDLR, par exemple, qui a été parmi les plus grandes menaces depuis assez longtemps, effectivement depuis le génocide au Rwanda, à l'est du pays, Ils sont toujours là, mais en condition de faiblesse, ils n'ont pas du tout la même capacité qu'ils ont eu il y a quelques années. Donc, reconnaissons qu'on a fait un progrès, mais aussi sensible qu'il reste, évidemment des choses à faire.
Mais les problèmes de sécurité se posent beaucoup plus à l'est qu'à l'ouest, Monsieur Nice.
Mais c'est ça que j'ai dit, effectivement.
Oui, vous dites qu'on allait aider à améliorer quand même la situation sécuritaire à Kinshasa et dans la partie ouest. Il n'y avait pas assez de problèmes d'insécurité.
Mais j'ai vécu aussi des périodes de combats deux fois très actifs ici à Kinshasa en 2006-2007. Effectivement, il y a eu des problèmes.
Là, c'était après les élections.
Oui, effectivement. Mais ces problèmes et ces menaces n'existent plus. Donc, je ne veux pas dire que c'est tout grâce à mon effort, mais j'ai joué un rôle comme ambassadeur, comme membre du CIAT en général, pour appuyer et soutenir ces efforts pour arriver à réaliser cette amélioration. Mais, bien sûr, il reste encore des problèmes sérieux, difficiles à l'Est, surtout liés aux activités des groupes armés, quatre groupes armés étrangers, ainsi que plusieurs groupes congolais.
Mais pourquoi la MONUSCO, vous étiez, parce que vous êtes en train de partie patron de la MONUSCO, n'arrive pas toujours à mettre fin à tous ces groupes armés qui pilulent dans l'Est de la RDC?
Je voudrais dire que c'est évident qu'il n'est pas une question très simple pour arriver à mettre fin à toutes ces activités. Si c'est quelque chose assez simple, il fallait le faire depuis longtemps. Et je voudrais dire aussi, comme ambassadeur américain, j'ai pris note que les activités de la MONUC à l'époque, je crois, étaient un rôle clé pour le pays. Je suis convaincu qu'il aurait difficile d'arriver à l'aboutissement heureuse de la transition, par exemple, sans un rôle clé, critique même, joué par la MONUC, ainsi que les agences des Nations Unies à l'époque. Et je voudrais dire que ça continue, je crois, un rôle clé aussi. Donc, j'ai déjà dit que, par exemple, la menace par la FDLR, en 2005-2006, la FDLR est peut-être la plus grande menace du point de vue des groupes armés menaçant la stabilité et le bien-être de la population, la sécurité. Et comme j'ai déjà dit, la FDLR ne retient pas du tout la même capacité actuellement qu'ils ont eu à cette époque-là. Et la MONUC, actuellement MONUSCO, joue un rôle très important là aussi avec les programmes des opérations militaires, des opérations conjointes avec la FRDC, les programmes de DDRRR, ça veut dire effectivement le programme de répatriement des combattants chez eux. Donc, en tout ce sens, on a fait un progrès très important. La FDLR continue d'exister, bien sûr. Je voudrais dire que au début de 2012, nous avons pensé, avec la tendance déjà achevée, qu'il soit possible d'arriver effectivement de la fin de FDLR comme groupe cohérent militaire, si vous voulez, dans le futur visible. Malheureusement, beaucoup de ces activités et ce progrès a été mis en suspens à cause de la rébellion qui a été lancée par Bosco Ntaganda et le M23. Mais, donc, il est très important, le FDLR continue d'être en position de faiblesse, il est très important d'arriver pour mettre fin à cette menace et la rébellion des M23 et de reprendre les opérations et la pression contre le FDLR pour arriver à la fin de ce groupe, la menace qu'il pose, ainsi que d'autres groupes armés aussi qui continuent à fonctionner.
Et comment vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que la MONUSCO ne fait rien pour la RDC, les militaires ou les casques bleus de la MONUSCO sont en tourisme en RDC?
Je voudrais vous inviter, les gens qui pensent qu'on peut, de parler avec les personnes dans plusieurs villages au nord Kivu ou bien au sud Kivu, qui se sont menacées tous les jours par les groupes armés, ou bien parler avec les personnes qui restent autour d'une de nos bases. Nous avons 90 bases, plus ou moins, à l'est du Congo. Et si on propose à fermer une de ces bases, il y a toujours une opposition forte de la population qui reste dans cette région, parce qu'ils savent parfaitement bien les activités qui sont très importantes pour eux et pour leur bien-être. Donc, je crois que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui reste à une condition assez confortable à Kinshasa ou ailleurs à parler en ce sens. Mais si on parle avec les personnes sur le terrain, les gens qui connaissent bien les opérations de la MONUSCO ainsi que les autres agences, et qui savent exactement qu'est-ce que les personnels militaires, civils et police de la MONUSCO font quotidiennement. Vous aurez une réponse très différente.
Alors, Monsieur Miss, est-ce que vous croyez au retour total de la paix en RDC?
Oui, absolument. J'ai déjà dit que, comme j'ai dit déjà, je suis déçu que j'arrive à la fin de mon mandat sans avoir l'établissement de la paix et la sécurité durable déjà achevée.
Un peu un échec pour vous.
Mais je voudrais ajouter que je crois avec des initiatives qui ont été lancées depuis quelque temps. Et je voudrais citer parmi autres, par exemple, la signature de l'accord cadre en février à Addis Ababa, la nomination de Mme Mary Robinson comme envoyée spéciale et toutes ces activités pour assurer le respect de tous les partis signant l'accord cadre de leur engagement, y compris l'adoption par le Conseil de sécurité de la nouvelle résolution qui, parmi autres choses, ont autorisé l'établissement de la brigade d'intervention et beaucoup d'autres activités et des initiatives encore actuellement. Je crois que nous avons la possibilité, la bonne potentialité et même les conditions beaucoup mieux qu'elles existaient depuis au moins très longtemps, peut-être jamais, pour effectivement établir la paix, la sécurité durable avec les engagements nécessaires de tous les partis. Et je parle non seulement des Congolais, et bien sûr il y a des choses à faire au Congo, mais aussi de la région, y compris les pays voisins, pour assurer cette sécurité.
La paix n'est pas pour aujourd'hui.
Bon, c'est pas aujourd'hui, mais je voudrais dire que je parle aussi avec un optimisme que les choses sont faisables, qu'à ce point, il est possible de ne pas simplement répéter l'expérience du passé avec un accord incomplet ou bien pas suffisant pour établir la paix, mais effectivement achever la sécurité et la paix durable. Donc, bien sûr, la paix n'est pas encore établie pour surtout le Kivu et les régions de l'Est du Congo en général, mais je crois que c'est faisable, c'est possible à l'achever dans le futur visible, et donc je crois que c'est important de continuer à construire sur la fondation des choses déjà faites pour arriver finalement jusqu'au bout, comme peut-être on a fait avec la transition, mais en ce sens, à l'Est du Congo pour la paix, la sécurité durable, avec un engagement des pays voisins, de toute la région, une implication de la communauté internationale pour aider et soutenir ces efforts, y compris notamment un rôle qui continue d'être très important pour les Nations Unies, y compris notamment les agences. Et en ce sens, je voudrais ajouter que, bien sûr, nous avons eu récemment la visite du secrétaire général des Nations Unies, ensemble avec le président de la Banque mondiale. C'est la première fois depuis jamais que les deux voyagent ensemble. Et ça permet, autre, de souligner le lien important entre le développement économique et la sécurité.
Radio Capi, grand témoin.
L'invité de grand témoin aujourd'hui est Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il est fait mandat après 3 ans passés à la tête de la MONUSCO. Ça fait plus de 10 ans, Monsieur Miss, que la MONUSCO en RDC. Comment expliquer qu'on n'arrive toujours pas à retrouver ou à recouvrir la paix dans l'est de la RDC et sur toute l'étendue du pays, je veux dire.
Bien sûr, c'est 10 ans, mais je voudrais dire qu'en effet, c'est toujours, du point de vue juridique, c'est la même mission, mais en réalité, de facto, ce sont des missions différentes. On a autorisé une mission des observateurs en 1999, déploiement en 2000, très modeste. Et éventuellement, c'est évolué jusqu'à une mission de maintien de la paix un peu plus classique. La nature de la mission a changé encore pendant la transition avec les accords de Sun City et Lusaka pour réaliser les objectifs de la transition de laquelle j'ai déjà parlé. Et à mon avis, la MONUC a joué un rôle très important, même clé, pour la réussite de cette transition. Et après la transition, on a évolué encore la nature, la caractère de la mission pour appuyer le gouvernement élu pour combattre les problèmes d'insécurité en plus. Et à ce point, je crois que nous avons une autre évolution encore avec l'adoption par le Conseil de sécurité de la nouvelle résolution qui a autorisé cette brigade d'intervention et qui a aussi donné l'autorité de faire des opérations pour l'imposition de la paix, pas simplement maintien de la paix. Et ça, je crois, c'est une bonne réponse aux conditions et la réalité que la situation à l'est du Congo n'est pas une situation post-conflit. C'est un conflit actif. Donc, avec cette capacité pour les opérations de l'imposition de la paix, comme une partie intégrale d'une approche compréhensive avec toutes les autres choses, l'accord cadre, les voies politiques et diplomatiques, c'est ça qui me donne une confiance que la paix et la sécurité durable soient finalement achevées.
Quel regard avez-vous sur l'avenir de la RDC?
Bon, je suis toujours un optimiste avec un optimisme que je garde et certainement je vais continuer à suivre avec beaucoup d'intérêt l'évolution et j'espère bien l'amélioration des problèmes actuels, de voir le fin finalement des menaces posées par les groupes armés étrangers que congolais. Et bien sûr, je garde cet optimisme et fondé, je peux dire aussi, et surtout après toutes ces années, l'amitié profonde que j'ai connue avec beaucoup des amis congolais, avec l'amitié du peuple congolais en général.
Nous tendons vers la fin de notre entretien. Monsieur le ministre, quels souvenirs vous gardez du Congo?
Je garde des souvenirs d'une amitié d'un peuple très impressionnant du point de vue de leur détermination à poursuivre, à continuer, à développer leur vie malgré tous ces problèmes énormes en vue d'une histoire de pays assez difficile. Donc je garde des mémoires très positives et surtout fondé sur cette amitié.
Vous avez eu à goûter au mets congolais, j'imagine. Vous avez goûté à la cuisine congolaise?
Ah oui, bien sûr. J'avais mangé beaucoup de la cuisine congolaise, bien sûr.
Quoi, par exemple, qu'est-ce que vous avez
mangé? Il y a tous les plats, mais j'aime bien. J'ai une préférence toujours, par exemple, pour la sauce faite avec les feuilles de manioc. Quelque chose que j'aime bien. Il y a plusieurs autres plats aussi, et bien sûr, comme vous savez...
Le pondou...
Oui, bien sûr, tout cela, mais la cuisine aussi, ça change d'une région à l'autre, donc la cuisine qu'on trouve ici à Kinshasa n'est pas du tout la même qu'on trouve à Lubumbashi, Goma et ailleurs, et donc avec tous ces voyages à l'intérieur, c'est aussi un plaisir à mieux connaître toute la variété de la vie et la culture congolaise.
On parle aussi de la musique. Quand on parle de la RDC, on voit musique.
Mais le Zaïre et actuellement Congo est toujours un grand centre pour la musique en Afrique. C'est évident. Et ça continue et je suis très heureux de voir que, il me semble, la vie musicale, la vie de la culture continue toujours très vibrante, très active et... C'est certes que reflète la joie de vivre aussi.
Ça vous arrive d'écouter quelques morceaux congolais?
Ah bon, je ne suis pas un musicien moi-même, mais...
Vous n'êtes pas obligé d'être musicien pour écouter la musique congolaise?
Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de différentes chansons, y compris les grands chanteurs depuis longtemps, très, très bien connus par
Comme
le Congo.
Comme qui, par exemple?
Oh, Papa Wemba, et il y a beaucoup d'autres aussi, mais... Mais je voudrais dire aussi que je garde un souvenir de la musique, par exemple, de Coco Swing, un de mes prédécesseurs,
ouais.
Ainsi que beaucoup d'autres aussi. Même, il y a un bon morceau qui a été fait par la Banque Centrale pour le nouveau franc-congolais.
Le franc-congolais, oui.
Et c'est pas mal non plus, voilà.
Vous avez appris sûrement aussi des petits mots en lingala.
Ah non, alors non. Malheureusement, non, j'ai déjà assez de difficultés en français. Et même, il y a certaines qui disent que j'ai assez de problèmes à parler même en anglais. Donc, alors...
Ben, finalement, vous parlez quelle langue que vous avez des difficultés en français en anglais?
Alors, voilà un de mes dilemmes.
Ben, attendez, même bonjour, c'est difficile pour vous de prononcer en
Bon, non, je reste à se débrouiller en français, je crois.
Alors, on va vous faire plaisir en vous proposant la chanson franc-congolais. On va demander à Jean-Noël Mukundo, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, de nous retrouver la chanson. Jean-Noël, tu peux nous balancer la chanson si tu l'as? Voilà, il me signale qu'il a la chanson. Alors on va écouter franc-congolais, puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Oye, oye, panadia boca, oye, oye, nadie. tampoco quiero ir.
Radio Capi, grand témoin.
L'invité de grand témoin aujourd'hui est Roger Nice, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il est fait mandat après 3 ans passés à la tête de la MONUSCO. Nous sommes à la fin de notre entretien. Vous avez un message particulier adressé à tous ces Congolais qui nous suivent partout à travers la RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net.
Je voudrais dire, c'est ce que j'ai déjà dit, que malgré les problèmes et les problèmes importants qui restent pour le pays dans le domaine de sécurité, menace à la population, même de développement économique, que j'ai un optimisme, qu'on arrive finalement de faire quelque chose de mieux, de mettre fin à cette insécurité et de commencer à voir la potentialité, de mieux réaliser la grande potentialité de ce pays. Et je ne parle pas uniquement des minerais, mais la potentialité du peuple congolais. Donc je laisse avec de bons souhaits pour la réussite le plus rapidement possible, pour une amélioration, pour le développement. Et c'est quelque chose que je voudrais bien voir et je vais suivre et surtout encore avec des bonnes mémoires et de l'amitié du peuple congolais.
Monsieur Miss, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Alors on vous souhaite une bonne retraite.
Merci beaucoup et effectivement, ce deuxième essai, je compte mieux faire pour assurer
la retraite. J'espère que vous n'allez plus changer d'avis.
Non, je ne crois pas.
Merci beaucoup.
Merci.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Roger Nice, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il est fait un mandat après 3 ans passés à la tête de la MONUSCO. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la technique, au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment partout en RDC et à travers le monde.